C'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la guerre ouverte entre Donald Trump et les démocrates qui menacent de plus en plus de lancer une procédure de destitution. Grosse colère hier du président américain. Nous serons à Washington en début de journal. Les élections européennes avec la Grande-Bretagne qui ouvre le bal ce matin. Le parti du Brexit de Nigel Farage devrait arriver largement en tête. Même certains Français votent pour lui, on l'entendra. Dans l'actualité également, première réunion aujourd'hui à l'Élysée du Conseil de défense écologique, censé coordonner l'action écologique du gouvernement. Autre réunion aujourd'hui à Bercy, celle-là pour tenter de rassurer les salariés d'Ascoval après la liquidation hier de leur repreneur. Et puis on parlera de militaires à la retraite qui demandent à être indemnisés pour préjudice d'anxiété et de jeunes footballeurs du PSG formés à la communication sur les réseaux sociaux afin d'éviter les couacs.
Au micro de Karine Bécard dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération, tête de liste Printemps européen pour ces européennes.
France Inter.
Psychodrame inédit, Sébastien, auquel la presse américaine a assisté hier à la Maison Blanche.
Oui, dommage que la série West Wing n'existe plus. L'épisode aurait été savoureux. Donald Trump et la chef des démocrates, Nancy Pelosi, devaient donc discuter hier d'un vaste plan de dépenses pour les infrastructures. Mais la réunion a viré au règlement de compte. Donald Trump a claqué la porte au bout de 3 minutes seulement. La raison de cette colère noire, les démocrates, y compris les plus réticents jusqu'ici, réfléchissent à entamer une procédure pour impeachment, pour destitution dans l'affaire de l'ingérence russe. Conférence de presse convoquée dans l'urgence par un Donald Trump furieux. Washington, Gregory Phillips.
La conférence de presse dans la roseraie de la Maison Blanche est annoncée à la dernière minute, mais elle n'a pas été improvisée, car les services du président ont préparé un podium spécial sur lequel ils ont écrit en lettres majuscules « Pas d'obstruction, pas de collusion ». Puis Donald Trump, qu'on a rarement vu aussi furieux, explique pourquoi il vient de claquer la porte de cette réunion. Il ne prononce pas le mot « impeachment », « destitution », il dit simplement le mot avec un « i », comme s'il s'agissait d'une insulte.
Et là, j'apprends hier soir que juste avant cette réunion, les démocrates vont en tenir une autre pour parler du mot en « i ». Vous imaginez ça? Je n'ai pas parlé aux Russes pendant ma campagne, c'est une supercherie.
La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, quitte donc la Maison Blanche et commente quelques minutes plus tard la colère de Trump.
C'est pour ça que le président était si remonté, parce qu'on voit au grand jour qu'il est engagé dans une opération de dissimulation et ça pourrait justifier une procédure de destitution.
Il est vrai que Donald Trump a récemment ordonné à ses conseillers de ne pas se rendre aux convocations du Congrès. Dans les rangs démocrates, ils sont de plus en plus nombreux à penser que cela suffit à entamer une procédure de destitution, mais sur ce point, Nancy Pelosi avance à pas très mesurés. Elle sait qu'une telle démarche n'a quasiment aucune chance d'aboutir tant que le Sénat est dominé par les Républicains. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
7h33, Sébastien, pas de grosse colère hier sur France Télévisions et France Inter, mais quelques duels tendus.
Avec cette réplique cinglante, notamment de Marine Le Pen face à Laurent Wauquiez, qui l'accusait d'être agressive, comme lors du débat du second tour de la présidentielle. J'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle, lui a répondu sèchement la présidente du Rassemblement National. Moins frontal, cet échange entre François Bayrou d'un côté, représentant de la liste de la majorité, et de l'autre, le président des Républicains.
La question qui se pose dans cette élection, il y a une question, une, c'est que l'Europe, elle est menacée de disparition à cause de ceux qui veulent qu'elle explose et qu'elle soit détruite. Alors on va pouvoir dire qui.
Le continent
va disparaître. On va pouvoir dire qui. Oui, madame.
D'accord, le continent.
L'Union européenne est en effet au bord de la disparition, au bord du crash. Vous avez des puissances colossales qui, au vu et au su de tout le monde, des Trump, des Poutine, avec des complicités à l'intérieur, chez nous, il y en a un certain nombre là, actives, ont décidé que l'Union européenne, qui est la seule possibilité de résistance à toutes ces puissances, il fallait qu'elle explose.
Je vais juste répondre sur ce sujet. Monsieur Bayrou, vous ne pouvez pas venir ici en disant « c'est grâce à Emmanuel Macron et c'est grâce à la liste En Marche qu'on va reformer l'Europe ». Vous avez abîmé la relation franco-allemande qui est pourtant fondamentale dans la construction européenne. Vous avez totalement isolé la France. Au bout de 2 ans, aujourd'hui, jamais sans doute l'Europe n'a été aussi fragmentée et vous avez été l'acteur de cette dislocation.
Laurent Wauquiez face à François Bayrou. Direction maintenant le Royaume-Uni, premier pays à se rendre aux urnes aujourd'hui avec les Pays-Bas. Les bureaux de vote ouvriront dans une demi-heure. Le grand favori, c'est le parti du Brexit de Nigel Farage. L'ancien dirigeant du parti d'extrême droite UKIP est de retour avec son nouveau mouvement. Et il a réussi à entraîner avec lui beaucoup d'entrepreneurs comme Didier Delmer, un Français qui s'occupe maintenant de la section locale du parti à Wokingham, dans le sud-est de l'Angleterre. Antoine Gignot l'a rencontré.
Nigel Farage, pour lui, c'est une sorte de Margaret Thatcher au masculin.
C'est de la politique bon sens.
Didier Delmer aide depuis plus de 10 ans les sociétés françaises à s'implanter au Royaume-Uni. Le parti du Brexit, c'est, dit-il, un instrument pour mettre fin aux perturbations.
On est dans une impasse politique, on a une incertitude qui nous honte. Les gens en ont marre, donc le Brexit Party, c'est ni plus ni moins qu'une start-up de la politique, calqué sur les campagnes à l'américaine, notamment des campagnes de Trump, ok, et qu'on a européanisé.
Et l'Europe, Didier la préférait à 12 qu'à 28. Il regrette l'élargissement vers les pays de l'Est.
Un Roumain, un Estonien, c'est pas un Anglais, c'est pas un Espagnol.
Mais pas question pour autant de laisser dire que son parti est xénophobe, comme ont pu l'être par le passé les déclarations de plusieurs élus de UKIP, l'ancien mouvement politique de Nigel Farage.
Bah moi qui suis marié avec une musulmane depuis 15 ans, je mets au challenge de trouver... En 8 semaines de campagne, on n'a pas prononcé une seule fois le mot migrant ou le mot immigration. Allez-y,
vérifiez. C'est aussi ce qu'il dit à propos des comptes de campagne après la condamnation aux États-Unis d'un ancien aide de camp de Nigel Farage, interpellé en 2016 pour extorsion, blanchiment d'argent et fraude. Le Brexit Party est au centre de toutes les attentions.
Il y a eu une descente, la commission électorale qui a passé 7 heures au bureau. Ils n'ont rien révélé de pire, quoi.
Londres. Antoine Gignot, France Inter.
Et toujours à Londres, la crise politique autour du Brexit qui s'accélère encore. Theresa May devrait annoncer demain sa démission. C'est ce que croit savoir The Times, qui cite des alliés de la première ministre britannique. On y revient en détail dans le journal de 8h.
7h37, Sébastien. Les crèches en grève aujourd'hui pour dénoncer les projets du gouvernement.
Les personnels de la petite enfance seront dans la rue car ils s'inquiètent en effet d'un projet d'ordonnance. Aujourd'hui, il manque en France entre 200 et 300 000 places en crèche. L'exécutif veut donc assouplir les règles d'accueil et d'encadrement des enfants et passer de 1 adulte pour 5 enfants à 1 adulte pour 6 enfants. La réaction d'Émilie Philippe, porte-parole du collectif Pas de bébé à la consigne.
Il y a une très forte mobilisation des professionnels et il ne s'agit pas tant de défendre leurs conditions de travail que vraiment l'accueil des enfants. On est par exemple un des pays de l'OCDE où le taux d'encadrement auprès des enfants est un des moins favorables. Donc ce projet d'ordonnance, il pourrait être l'occasion aussi pour le gouvernement d'avoir une vraie politique ambitieuse pour la petite enfance. Et ce qu'on craint, c'est une fois de plus de répondre à la demande de création des places, non pas en mettant en œuvre de vraies politiques de formation, de création de places, mais en optimisant déjà l'existant, alors que les conditions se sont déjà dégradées depuis certaines années et qu'il est aujourd'hui difficile pour les professionnels de pouvoir assurer l'accueil tel qu'elles le souhaiteraient.
Émilie Philippe au micro de Thomas Larabie. Ils ont embarqué sur des navires de guerre plein d'amiante pendant des décennies. 45 retraités de la Marine nationale, d'anciens officiers de l'armée, demandent à être indemnisés pour préjudice d'anxiété. Ils ont vécu sur ces embarcations polluées des années 50 aux années 2000. Ils ont rendez-vous aujourd'hui devant le tribunal administratif de Rennes. Valérie Lonigène de France Bleu Brésil.
Ces militaires à la retraite demandent à être traités comme les civils, les ouvriers d'État ou les ouvriers de la DCNS qui perçoivent une indemnisation pour préjudice d'anxiété parce que les maladies se déclare longtemps après l'exposition à l'amiante, quelquefois 50 ans plus tard. Pour Jean-Paul Leroux, président des officiers mariniers en retraite du Nord Finistère, qui compte 3500 adhérents, cette anxiété est bien réelle.
On a tous des camarades qui décèdent de l'amiante. Les poussières d'amiante, c'est quelque chose de très dangereux. Lorsque vous avez inhalé des poussières, elles peuvent rester dormir dans votre corps pendant une cinquantaine d'années, se réveiller du jour au lendemain, et là, c'est irréversible. Et tous les marins qui ont navigué sur des bateaux étaient confrontés à l'amiante, puisque tous les bâtiments sont gorgés d'amiante, quoi. La coque, il y a des tonnes et des tonnes d'amiante, et jamais nous n'avions de consigne ni de protection.
C'est la première fois qu'une telle action en justice a lieu en Bretagne, mais ces sous-mariniers à la retraite se basent sur une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a condamné l'État à verser une indemnité de 8000 euros à un ouvrier embarqué sur un bateau de la Marine nationale. En Bretagne, une cinquantaine d'autres dossiers sont en cours de préparation et pourraient être suivis de bien d'autres. Londres. Les bateaux de la Marine nationale ont été désamiantés seulement un peu avant les années 2000.
Valérie Lonigène de France Bleu Brésil. On termine avec du sport et cette inquiétude des clubs de foot après la sortie très médiatique de Kylian Mbappé ou les dérapages d'autres joueurs sur les réseaux sociaux. Comment protéger en effet l'image des clubs avec des générations de joueurs qui tweetent à tout va? Au PSG, on forme les jeunes dès le centre de formation à la médiatisation pour éviter les sorties de piste. Le reportage de Fanny Lechevestrier.
On vous a mis un autre exemple, une photo de lui à l'entraînement. Il a un tatouage sur le mollet d'une Kalachnikov.
Pas un bruit dans l'auditorium. Ils sont cet après-midi-là une vingtaine d'adolescents du centre de formation à écouter attentivement l'un des attachés de presse du PSG, les alertant sur l'image qu'ils peuvent renvoyer au grand public. Parmi eux, Hubert Mbuy, 16 ans, défenseur prometteur du club parisien et déjà plus de 1600 abonnés à son compte Instagram.
En étant des jeunes joueurs, on n'est pas toujours conscient de ce que l'on représente. On n'est pas n'importe où. On est aujourd'hui, grâce aux interventions, on est conscient que nous sommes des représentants du club et pas seulement de notre propre personne.
Et avec des cours sur le bon usage des réseaux sociaux, mais aussi sur l'histoire du club, tout est fait pour construire des joueurs exemplaires. Il en va de l'image véhiculée par le PSG à l'international, rappelle Jérôme Touboul, directeur de la communication à l'origine de ces formations.
Même si vous n'avez que 15-16 ans, mais vous portez l'étiquette Paris Saint-Germain, voilà, on sait qu'on est dans un club où on a pu être touché parfois par des affaires de réseaux sociaux qui ont été quand même assez lourdes à gérer. Mieux vaut prévenir que guérir.
Surtout que passé professionnel, les joueurs confient bien souvent leur image à des agents dont les intérêts divergent parfois de ceux du club.
Maîtriser la communication des clubs de foot, c'était le reportage de Fanny Lechevestrier.
Merci Sébastien Legénie.